Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal à la présentation grâce à Mzati.
Peut-être vers la guérison de la justice congolaise qualifiée de malade. Sur un ton ferme, le chef de l'État met en garde et prévoit des sanctions contre les magistrats qui vont encore se livrer à la complaisance ou à tout autre manquement aux valeurs de la justice. Félix Tshisekedi l'a dit hier à l'ouverture des États généraux de la justice. À suivre dans quelques instants avec Jeff Ngoï, l'envoyé spécial de votre radio à ses assises. Plus de 200 agents du secteur de la santé dans la ville de Bandundu alertent qu'ils sont supprimés de la liste des payes et sollicitent l'implication des autorités compétentes. Ils prennent d'assaut depuis deux jours les installations de la division provinciale de la santé du Kwilu pour dénoncer cette situation. L'invité de la rédaction ce matin est le procureur chargé de l'éthique et discipline au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Il nous parle d'un atelier de 5 jours sur l'éthique, la déontologie professionnelle des magistrats ainsi que la lutte contre les violences sexuelles organisées dans la ville de Kisangani. Mesdames et messieurs, bonjour. Début ce mercredi au centre financier de Kinshasa, des travaux des États généraux de la justice. Le président de la République prévient que tout manquement des magistrats aux valeurs de la justice sera désormais sanctionné. Le temps d'avertissement est révolu, dit-il. Nous l'avons dit, c'est d'un ton ferme que Félix Tshisekedi a ouvert ses travaux en s'adressant aux magistrats dans la salle pleine à craquer. On l'écoute au micro de Jeff Ngai.
Aux magistrats et aux autres acteurs judiciaires, je rappelle solennellement que le peuple congolais attend de vous une justice qui apaise et qui rassure, une justice qui inspire confiance par votre compétence, par le bannissement des actes de prévarication et par le respect intransigeant des valeurs éthiques que vous devez incarner sans faille. Le Congo ne va plus tolérer ni l'incurie, encore moins la complaisance. Chaque décision, chaque acte, chaque parole doit être le reflet de l'intégrité et de l'honneur que vous êtes appelés à incarner. Et sachez que tout manquement, toute défaillance, tout compromis avec la probité et la droiture sera désormais sanctionné.
Justement, comme l'indique Félix Tshisekedi, ces travaux vont poser un diagnostic sans complaisance des maux qui rongent la justice congolaise. Sans remettre en cause les résolutions des États généraux de 2015, les participants sont appelés à évaluer leur niveau d'exécution et de proposer des solutions idoines au dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. Il s'agira de formuler des actions rapidement à entreprendre sur le terrain. Magistrats, avocats, justiciables, huissiers et tout autre auxiliaire de la justice qui y prennent part active ont été exhortés à dépassionner le débat dans un climat de confiance pour améliorer l'administration de la justice en RDC. Jeff Ngoï est notre envoyé spécial à ces assises. Il nous en dit plus dans ce reportage.
Il faut déjà compter sur l'accompagnement de l'Ordre national des avocats. Son président, le bâtonnier national Michel Chebele, plaide pour des réformes profondes qui ne devront pas rester dans les tiroirs sans exécution.
Il faut faire preuve d'une volonté ferme et d'une détermination d'asseoir une justice saine et solide par des actes concrets.
Le Conseil supérieur de la magistrature tient à un débat franc dans le respect mutuel. Le président du CSM et président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouleta,
voulons tous une justice impartiale et accessible à tous, qui inspire confiance.
Selon le ministre d'État et ministre de la Justice, ces États généraux ne sont pas un cadre de confrontation entre son ministère et les magistrats.
Les États généraux que nous sommes en train d'organiser, ce n'est pas un lieu de confrontation, d'affrontement entre le ministre et les magistrats, c'est plutôt un cadre des prises de conscience collective. J'invite donc les uns et les autres à travailler de telle manière que nous puissions avoir des recommandations qui puissent déboucher sur des réformes courageuses, celles qui pourront toucher, pourquoi pas, à la révision de la Constitution.
C'est sous ces acclamations frénétiques de la salle que Constant Mutamba déclare que les lois et la Constitution sont faites pour s'adapter aux nouvelles réalités qu'elles rencontrent.
Parlons du malaise dans les secteurs de la santé publique dans la province du Kwilu, particulièrement à Bandunduville. Plusieurs agents de ces secteurs dénoncent la suppression sans motif de leur nom de la liste des payes du mois d'octobre 2024. D'après eux, les uns ont vu leur prime des risques être coupée, d'autres c'est les salaires et d'autres encore c'est tous les deux qui sont coupés. Ils affirment être des agents réguliers et actifs sans contentieux administratif dans la fonction publique. Désespérés, ils sollicitent l'implication des autorités compétentes afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Des explications avec Irène Mbomalozolo.
Ces agents de santé, toutes catégories confondues, ont assiégé mardi et mercredi les installations de la division provinciale de la santé du Kwilu à Bandundu pour exprimer leur ras-le-bol. D'après leurs propres témoignages, ils sont plus de 200 hommes et femmes qui ont été élagués des listings de paye du mois d'octobre dernier.
Nous sommes actifs, nous travaillons, mais subitement, nous sommes coupés. On a passé par des contrôles. Nous avons notre commission d'affectation.
Moi, par exemple, j'ai déjà été mécanisé, payé. C'est moi ici, mon nom n'apparaît plus dans la liste des payes.
On nous a coupé les salaires et nos primes, sans cause, sans problème.
Moi, personnellement, depuis 2016, on m'a coupé les salaires. Mais maintenant, la petite prime qui sort, et c'est parti.
Ces agents qui disent être des pères et des mères de famille lancent un cri d'alarme auprès des autorités compétentes afin que leur situation soit décantée.
Nous sommes venus réclamer notre droit. Nous sommes les parents. Nous souffrons. Notre petit rien là nous favorise à faire étudier nos enfants. Vraiment, nous avons besoin de ça. Si vous pouvez nous aider à nous donner notre droit.
Tout en appelant ces agents au calme et à la patience, la division provinciale de la santé du Kwilu qui reconnaît cette situation promet de faire les rapports à la hiérarchie. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Pendant ce temps, le ministère du Commerce extérieur rappelle les mesures gouvernementales interdisant l'importation de quelques produits dans l'objectif de sauvegarder les industries locales. Quelles sont ces mesures et quelle est la situation sur le terrain, notamment au Nord Kivu? Réponse avec vous, Denise Loukesso.
D'abord, l'interdiction temporaire d'importation des bières et boissons gazeuses à travers l'arrêté du 26 juin 2024. Curieusement, sur le terrain, en Nord Kivu, selon notre constat, ces produits semblent être toujours un peu partout sur les marchés. Est-ce que ce sont des stocks d'il y a quelques mois avant la prise de ces mesures, s'interroge aussi un analyste économique. Dadi Salé estime que l'industrie locale est toujours menacée, d'autant plus que ces interdictions souffrent de mesures d'accompagnement.
Ça crée un flou. Donc nous estimons effectivement que prendre des mesures c'est bien, mais les suivre c'est encore mieux. L'État congolais fait beaucoup de promesses et prend beaucoup de mesures, mais sur terrain, on ne voit pas beaucoup l'efficacité en grande partie. Est-ce que nous avons exactement des industries protégées des Congolais, pas des étrangers au Congo, qui devaient être protégées dans ce sens-là? Et pour l'instant, franchement, sur terrain, l'efficacité, on ne voit pas trop.
Notons que sur la liste d'interdiction, on note aussi l'importation du simagri dans la partie ouest et sud-est du pays. Il est aussi interdit d'importer de la chaux dans la partie sud-est du pays, ainsi que 8 marques de farine de maïs contaminées à la flactocine à partir de la Zambie, selon le communiqué du 15 août 2024.
Revenons à Kinshasa, où les travailleurs des commerces des Indo-Pakistanais étaient encore dans la rue ce mercredi. Par conséquent, tous leurs magasins sur l'avenue du commerce et aux alentours sont restés fermés. Ces agents réclament l'application du SMIC au taux du jour et une amélioration de leurs conditions de travail. Ils estiment que les négociations entamées avec leurs employeurs, avec l'aide des différentes autorités, n'ont pas abouti. Étienne Lissoumbou et Moïse Lindombe signent ce reportage.
Parti de l'avenue du Kassai pour chuter sur l'avenue du commerce, le travailleur des Indo-Pakistanais, réunis comme un seul homme, ont manifesté pour trouver gain de cause à ces situations qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Un déposité rencontré sur les lieux explique la situation.
Auparavant, c'était 7000 francs. C'était 7000 francs au moment où Mme Angel Kian a été ministre. Mais maintenant, les 5 dollars, c'est à 14 500. Mais les expatriés, tous les expatriés, il est en train de nous payer juste au taux de 1400 au lieu de 29 500.
Cette situation impacte aussi d'autres activités sur place. Marie Cambiste explique les difficultés qu'il rencontre.
Les travailleurs souffrent. Si eux ne travaillent pas, nous également, on ne pourra rien faire. C'est pour cela que nous demandons au chef de l'État de s'impliquer pour donner l'ordre une fois pour toutes.
Le ministre du Travail, Ephraim Akwakwa, qui s'est rendu sur place, s'engage à poursuivre les négociations avec les employeurs pour une solution probable d'ici la fin de ce mois de novembre.
Dans un autre chapitre, le gouvernement a lancé hier les travaux de la 6e session du Conseil consultatif national des forêts ici à Kinshasa. Ce forum de 2 jours se propose de doter le pays d'une nouvelle politique forestière. La ministre d'État en charge de l'environnement s'est dit convaincue que cette session permettra d'améliorer la gouvernance forestière en RDC. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Avec l'appui financier de l'Agence française de développement, ces travaux prouvent l'engagement du gouvernement d'améliorer la gouvernance forestière du pays. La ministre d'État en charge de l'environnement s'est réjouie que l'exécutif national fait de son secteur son sixième pilier, visant ainsi le bien-être de la population congolaise. Pour Eve Bazaïba, ces assises devront également garantir l'amélioration de la gouvernance forestière à travers ces processus irréversibles de doter le pays d'une politique forestière appropriée.
Nous sommes obligés de gérer durablement les forêts et d'en donner des stratégies nécessaires tout en utilisant les bois de moins en moins comme énergie. Mais le plus important pour nous, c'est de protéger la forêt primaire pour laquelle nous sommes en train de chercher une politique forestière nationale.
De son côté, le directeur général des forêts au ministère de l'Environnement a encouragé le gouvernement à mettre les moyens pour faire du secteur forestier un des piliers du développement social. Cette sixième session connaît la participation de plus de 70 personnes, dont la majorité sont réunies au sein du Conseil consultatif national des forêts. Durant des jours, ils examinent plusieurs documents, dont les rapports des assises des états généraux des forêts, la feuille des routes du zonage forestier et programmation géographique et autres.
Blaise Ndongala Mayanda sur la radio de la paix. L'actualité, c'est aussi ce drame qui s'est produit dimanche dernier dans la commune de Panda, à Likasi, dans le Haut-Katanga. Un arbre planté au bord de la route est tombé sur un bus de transport en commun, tuant au passage une personne et blessant plusieurs autres. Du coup, la problématique de la gestion des arbres plantés le long des artères fait surface. Comment la coordination urbaine de l'environnement entend-elle résoudre cette question? On écoute Mathieu Mouchel, responsable de cette coordination, joint par Jean Gandou.
La coordination urbaine de l'environnement préconise l'identification de vieux arbres qui présentent un danger permanent sur la ville et leur abattage pour éviter le pire pendant cette saison de pluie et surtout par le rafale de vent violent, la tempête ainsi de suite, en prévision d'un remplacement par de jeunes plantes qui se trouvent dans la pépinière de notre coordination urbaine. La population doit éviter de brûler les arbres qui se trouve le long de troncs d'arbres. La taxe d'abattage est cédée aux entités décentralisées. La responsabilité civile revient aux communes qui s'occupent de la présente taxe selon l'ordonnance loi du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l'entité territoriale des agrégés ainsi que les modalités de leur répartition. Alors la coordination est en train de faire un effort pour que la population vienne nous montrer là où l'arbre présente un danger et nous devons faire un programme pour aller l'abattre.
Santé à présent. Dans le territoire de Beni au Nord Kivu, le nombre des cas de paludisme et d'anémie a considérablement augmenté dans l'aire de santé de Vulambo, situé dans la zone de santé de Vuovi. Selon Kasere Kamitavo, l'infirmier titulaire de cette aire de santé, cette hausse est liée à la multiplication des états piscicoles mal entretenus dans la région depuis 2 ans. D'après lui, au moins 438 cas ont été notifiés entre septembre et octobre 2024. Il appelle les responsables de ces étangs à améliorer leur entretien et plaide pour une campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides dans la zone. Kasere Kamitavo est au téléphone de Guylaine Kassassia.
Il y a plusieurs hypothèses qu'on est en train d'épingler. On a vu comme quoi il y a présence de plusieurs états piscicoles dans notre contrée qui sont mal entretenus. Néanmoins, on peut ajouter aussi la fièvre typhoïde qui est en train d'augmenter du jour au jour suite à l'usage de l'eau sale. Cette situation s'observe depuis longtemps, surtout quand il y a une présence massive des états piscicoles. C'est quand nous avons constaté qu'il y a augmentation des cas de paludisme du jour au jour. Surtout dans notre zone, on a déjà dépassé le seuil qui est recommandé, raison pour laquelle nous disons que la situation est déjà critique. On est en train de connaître des ruptures de quelques produits pharmaceutiques qui peuvent nous aider à bien prendre la charge des malades. Actuellement, les moustiquaires qu'on avait distribués commencent à vieillir. À l'hiérarchie, soit au gouvernement, de nous fournir d'autres moustiquaires. Deuxièmement, les gens qui ont des états piscicoles, de les entretenir pour ne pas être un danger à la population.
Actualité internationale.
Le président du Kenya, William Ruto, était en visite officielle à Djouba, au Soudan du Sud, hier, avec pour objectif de permettre une reprise des pourparlers de paix organisés sous l'égide du Kenya entre le gouvernement sud-soudanais et des groupes d'opposition non signataires de l'accord de paix de 2018. Ce processus de paix parallèle, baptisé Tumaini, Espoir en Kiswahili, a été initié en mai 2024 par William Ruto à la demande du président sud-soudanais Salva Kiir. Présidentielle américaine, Kamala Harris concède sa défaite et appelle à continuer à se battre. La vice-présidente démocrate a pris la parole au lendemain de sa défaite face à Donald Trump, reconnaissant l'issue du scrutin. Les électeurs démocrates peinent à cacher leur déception face aux résultats.
L'invité.
C'est le procureur chargé de l'éthique et discipline au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Il a clôturé lundi dernier à Kisangani un atelier de 5 jours sur l'éthique, la déontologie professionnelle des magistrats ainsi que la lutte contre les violences sexuelles. Cet atelier, appuyé par l'agence belge de développement Enabel, a regroupé aussi bien les magistrats civils que militaires de la province de la Tchopo. Maurice Echike Pangando s'entretient avec Jacques Mkonkole.
Monsieur le procureur, bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur.
Que peut-on retenir de cet atelier que vous venez d'organiser ici à Kisangani, à Joli Rêve?
Pour nous, ça a été un atelier qui a consisté à une mise à niveau des magistrats, tant civils que militaires, les rappeler les principes éthiques, déontologiques ainsi que disciplinaires qui doivent guider le comportement des magistrats dans ce qu'ils sont appelés à faire comme travail, particulièrement en matière de violences sexuelles. Et on s'est compris, on attend à ce qu'après cet atelier, les magistrats arrivent à respecter ces principes qui leur ont été inculqués.
Les notions apprises n'étaient qu'un rappel, vous l'avez dit d'ailleurs. Pensez-vous que ce renforcement des capacités à lui seul soit suffisant pour amener les magistrats à dire le bon droit?
Il faut d'abord dire que même lorsqu'on était à l'université, ce n'est pas qu'on a retenu ou bloqué toutes les disciplines du droit, non. Et dans la pratique, lorsque on fait une remise à niveau, un renforcement des capacités, c'est pour voir la théorie que nous avons apprise à l'université et la pratique et la réalité que nous affrontons, s'il y a moyen d'évoluer. Ici, ce n'est pas des cours académiques, non. Ce sont des expériences, échanges d'expériences dans la pratique. Et nous espérons que pour un magistrat qui veut bien évoluer dans sa carrière, il ne peut bien le faire qu'en respectant en dehors de la science, mais aussi les principes éthiques, déontologiques qui guident, qui encadrent cette profession. Et c'est ça qui nous a été recommandé par le président du CSM. Inculquer d'abord, parce que le problème de notre société, c'est d'abord éthique. Les textes sont là, mais soit on n'a pas la matière, soit on n'a pas la conscience. Or, si nous avons la matière, inculquons maintenant, éveillons la conscience dans le travail du magistrat. Et c'est pour là nous allons répondre à la vision du chef de l'État qui voudrait que nous arrivions à combattre l'antivaleur. Lorsqu'on ne respecte pas l'éthique de la profession, vous ne pourrez pas combattre les antivaleurs.
Monsieur le procureur, vous ne voyez pas que l'État a aussi un grand rôle à jouer. Quelles sont les mesures d'accompagnement que l'État prévoit pour justement que le magistrat fasse correctement leur travail?
Oui, l'État c'est un tout. Dans l'État, il y a aussi nous. Nous devons jouer notre rôle, nous devons jouer notre partition. Avant d'appeler le gouvernement, la population, c'est vrai, la justice, lorsqu'on parle de la justice, c'est pas forcément seulement le magistrat. C'est toute une chaîne. Si vous avez vu ici, pratiquement tous les services. Mais ici, c'est seulement l'aspect des violences sexuelles. Si vous avez le domaine environnemental, vous verrez toujours cette complexité. Mais au moins, le creuset, le sanctuaire, l'entonnoir de la société, c'est le magistrat qui doit filtrer en dernier ressort. Alors, celui qui ne veut pas respecter les principes, les mesures d'accompagnement, pour nous, c'est la sanction. Par exemple, nous avons préféré prévenir d'abord, rappeler les notions avant de passer à la sanction qui pourra provenir de la procédure disciplinaire et que nous leur avons rappelé encore.
Et la population a-t-elle aussi un rôle à jouer dans ce travail de la magistrature?
Justement, c'est comme ça qu'on a associé aussi les organisations des droits humains, les avocats. Nous avons associé parce que c'est eux qui sont souvent en contact avec la population. Par moment, la justice est mal vue suite à l'ignorance du droit. La procédure. Chaque citoyen croit que ce qu'il a dans sa tête, c'est ça les droits. Les droits, c'est pas seulement les faits. Il y a aussi des procédures. Et tout ça, c'est pas réglementé ou dicté par le magistrat. Le magistrat subit par moment des contraintes légales, des procédures, qui font que par moment, les justiciables soient ignorants de la procédure. Et lorsqu'on va rendre la décision, par ignorance, les autres diront non. Le magistrat a mal dit les droits. Pourtant, c'est les vrais praticiens du droit sincères savent par moment que tout ce qu'on on jette comme propre au magistrat n'est pas toujours fondé. Parce qu'un justiciable ne comprendra pas que nous ne sommes pas saisis, qu'il y a irrécevabilité. Il ne va pas comprendre ça.
Alors, que doit faire la population?
Non, la population doit être... Ce n'est pas que toute la population ou chaque individu doit maîtriser les méandres du droit. Non, c'est comme ça. Il y a des ONG qui doivent les accompagner, les populations, tout comme les avocats. Et ceux-là doivent avoir un peu d'ascendance sur les clients pour leur expliquer que voilà, la réalité, c'est ça. Ce n'est pas la faute du magistrat. C'est la loi veut qu'il la soit ainsi.
Alors, tous les magistrats n'ont pas été avec vous ici. Vous avez sélectionné quelques-uns. Alors, pour ceux qui n'ont pas été ici, et même la population, quel message pouvez-vous leur adresser?
Jésus n'a eu que 12 apôtres. Jusqu'à présent, plus de 2 millénaires, le christianisme est en train toujours de conquérir le monde. Mais nous avons à peine environ 3000 magistrats. Mais dans la Tchopo, c'est un effectif réduit. Ici, on a un échantillon de 30 magistrats, n'est-ce pas, qui pourront facilement faire rayonner les leçons qu'ils ont tirées ici.
Monsieur le procureur, merci.
C'est moi qui vous remercie pour votre disponibilité.
Notre invité répond aux questions de Jacques Moukonkole. 6h20 dans ses studios. Ce journal touche à sa fin. Au nom de toute l'équipe, Jude Mister Bilanda, Martin Seboujangwe, Polydor Basunga et Grace Amzati, nous vous disons merci de l'avoir écouté et de le retrouver sur notre site internet www.radiokapi.net.